Bon, ben, bonsoir à tout le monde. Il y a des endroits où l'heure c'est l'heure, paraît-il. Et on vient de demander à ce qu'elle soit à peu près respectée. S'il y a des retardataires, ben, ils prendront en cours de route. Donc cette réunion fait suite à plusieurs autres réunions au cours desquelles la commune d'Aléras, dès le mois d'avril, si je ne me trompe pas, avait sollicité et obtenu le principe d'une réunion publique à Aléras pour parler du parc et de l'intégration d'Aléras dans le parc. Donc après, il y a eu plusieurs autres réunions. Nous avons depuis le plaisir de nommer Annie comme référent au parc, puisque c'était la demande des instances. Donc j'ai ce soir plaisir à accueillir pour nous informer mieux sur notre situation et sur des notions dont certaines ont été un petit peu mal comprises et donc mal transmises, si j'ose dire. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Donc M. Roucan, qui est à la fois vice-président de la région Auvergne et président de l'association de préfiguration du parc. Je ne vous présente pas, mais je remercie Paul Bourreau, notre président de communauté de communes, d'être à nos côtés. Et je vous présente Luc Blondel, le grand acteur de ce soir, qui va nous faire un bon one-man show sur le parc, nous expliquer ce qui est remarquable, ce qui ne l'est pas, comment on l'est, comment on ne l'est pas, comment on peut le devenir quand on n'est pas encore, comment on peut décider de ne plus l'être. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. C'est pas une réunion polémique, c'est une réunion d'information. Donc toutes les questions sont les bienvenues et les réponses aussi, bien sûr. Je pense que j'en ai assez dit. Je vous remercie évidemment tous d'être là aussi. Et je cède la parole à Luc immédiatement en le remerciant. Mais peut-être que le camp va dire deux mots avant.
Oui, juste un petit mot comme ça. Bah, écoutez, d'une part, merci de passer du temps avec nous parce que c'est agréable. Et c'est pour nous quelque chose, au bout de 4 ans quasiment de travail, de voir que voilà, on s'intéresse, il faut en parler, etc. Il faut parler de ce sujet du parc, c'est très très bien. Pour nous, oui, ça fait du bien d'être dans cette configuration où justement une commune nous demande de venir encore une fois et recommencer ce travail, etc. Ça veut dire qu'avec l'ensemble des. Combien on a fait 6 ou 7 réunions territoriales, on était à Saint-Anne pour ici. Ben, ça suffit de parler. Pour encore en débattre, c'est toujours ce qui a animé l'association, dans tous les cas le bureau d'association, de dire il faut que ça soit transparent, il faut que la démarche soit transparente. Tous les documents, vous les avez tous, vous avez même que les nôtres. Il n'y a pas de truc là-dessus. Tout est en ligne et donc on peut en parler librement, il n'y a aucune question taboue. Donc, on est là pour ça, et moi je suis très content de venir ce soir, encore une fois, dans cette communauté de communes et vers Aléras, pour justement répondre à vos questions. Alors, effectivement, il va nous faire une présentation rapide, et après, on est pas dedans.
Bah, juste saluer tout le monde, déjà, dire aussi que je suis bien heureux d'être à Aléras, qui est. Une commune à part entière du territoire de Kerfradel. On avait effectivement fait une réunion à Saint-Aon où on avait déjà évoqué plein de choses. Puis depuis maintenant 4 ans, on a fait le tour du territoire. Il y avait eu une réunion l'an dernier à Saint-Jean, il y en avait eu avant un peu partout. Et c'est vrai que ça mérite des explications, ça mérite aussi, je crois, beaucoup. Ça pose beaucoup d'interrogations, en tous les cas, aux habitants. Moi, j'ai vu et je ressens de plus en plus au fur et à mesure qu'avancent les choses. Et aujourd'hui, même en termes de communauté de communes, tout à l'heure, je prépare un peu de mon avis et de ce que je ressens, sachant que si je me positionne en tant que président de Kerfradel, on a un peu, je dirais, un pied de chaque côté, c'est-à-dire qu'on fait partie du pays du blé et que de l'autre côté, on est sur le côté du parc. On a eu une réflexion sur les leaders ou pourquoi le PMA ne porte pas ou l'association de considération le futur leader. On a finalement choisi de rester sur le blé et on est effectivement la communauté commune qui est peut-être la plus. Un cheval entre deux, quoi. Et on hésite régulièrement, est-ce qu'on doit partir d'un côté ou de l'autre. Je sais que mon prédécesseur s'est posé la question et pendant des années, puis on se la pose toujours. Donc voilà, on espère que notre maire avancera ou qu'on pourra choisir un moment, soit avec les élus, soit avec les maires, pour choisir nos meilleurs partenaires. Sachant qu'aujourd'hui, on a aussi beaucoup de questions beaucoup plus larges sur l'intercommunalité pour savoir avec qui on sera demain, puisque ben, on sait très bien, vous avez entendu la réforme. Aujourd'hui, une communauté de communes de 5000 habitants, c'est plus suffisant. On veut nous mettre à 20 000. Peut-être qu'on aura une petite dérogation pour rester un peu moins nombreux, mais pour que le mariage devient incontournable pour nous, avec qui on va se marier, quel impact ça peut avoir sur le PMR, c'est vrai que c'est pas sans incidence, c'est que je comprends du coup, j'ai compris les questions que se posent les habitants de la France et les territoires de Cap-Val. Voilà, je crois que le meilleur moment, c'est de laisser la parole à Luc pour qu'il nous présente le PMR.
Alors, rajouter deux mots pour dire qu'effectivement, beaucoup de questions se posent. Parmi celles qui sont posées, c'est la reconnaissance d'Aléras et son côté que je qualifierais de remarquable, puisque c'est un mot qui est employé très souvent. Et on va nous donner ce soir les explications qui conviennent, parce que, à force d'assister aux réunions, même en toute discrétion pour ce qui concerne la suite, nous n'avons pas été les derniers, que ce soit Annie ou que ce soit moi, à être les mouches du coche dès le mois d'avril, pour demander et insister, sachant que nous étions une nouvelle équipe, que nous arrivions et que nous manquions d'éléments. Donc ces éléments, nous ne les avons pas improvisés, nous ne les avons pas cherchés n'importe où, et nous les avons demandés aux gens qui savent et aux gens qui s'occupent depuis le début de la mise en place de ce parc. Alors, Luc vous en dira plus tout à l'heure. Débat sur remarquable par remarquable, je crois qu'il y a des idées préconçues, voire des erreurs de conception au départ, qu'il convient de rétablir aujourd'hui. Ce que j'ai retenu de vos réunions préalables, c'est que nous étions quand même dans un haut lieu remarquable. Et que ça, c'est encore mieux qu'un site ou un lieu. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Merci à vous.
Merci à tous. Bon, ben, je prends la parole. Je vais essayer de ne pas être trop long pour justement laisser le place, maximum de place à vos questions, à nos débats. Je vais quand même présenter ce que c'est que cette charte de parc, ce parc naturel régional, parce que tout le monde n'a peut-être pas suivi nos réunions et nos débats. Donc je vais passer assez vite, mais avec un rappel. Donc je vais aller au bout parce que c'est là que j'ai la commande de mon ordi. Donc rappelez juste qu'un parc naturel régional, il y a la notion de projet collectif qui traverse effectivement les limites intercommunales, de départements, de régions, mais que l'ensemble des partenaires, donc l'ensemble des collectivités locales, signent en s'engageant sur une stratégie à 12 ans. Donc c'est un projet de territoire. Dans tous les parcs, il y a une équipe d'élus et de techniciens qui anime la mise en œuvre de la charte qu'on a écrite ensemble. Et puis, la particularité aussi, c'est que c'est un organisme et une stratégie qui est bâti avec les professionnels et les forces vives du territoire et qui se réalise avec eux. Donc ça, c'est trois idées très simples à retenir sur ce qu'est un parc naturel régional. Souvent, on a mis cette diapo, hein, vous l'avez vu pour ceux qui étaient à Saint-Aron, parce que souvent on a la confusion entre parc national et parc naturel régional. Le PNR, évidemment, pour faire un parc naturel régional, on ne peut pas le faire partout en France, il faut un territoire exceptionnel. Un territoire remarquable au patrimoine culturel, naturel et paysager remarquable. Voilà. Et dans ce territoire, il y a des monuments protégés, des sites inscrits, des sites classés, etc. Un parc national, c'est un espace lui-même qui est cerné, en principe non habité, et qui est un espace protégé réglementairement. Ce que n'est pas un parc naturel régional. Le PNR n'a pas de pouvoir réglementaire lui-même directement. Il n'autorise pas, il ne réglemente pas. En revanche, ce qu'on écrit ensemble dans la charte du parc, et donc qui est travaillé depuis maintenant 4 ans avec l'ensemble le plus grand nombre possible d'acteurs, c'est une certaine ambition, avec des engagements des uns et des autres, et une stratégie qui effectue des choix et qui met l'accent sur un certain nombre de choix. Alors, juste cette petite diapo pour vous indiquer que le parc naturel régional, ce n'est pas une création récente, hein, c'est un outil qui date de la fin des années 60. Et aujourd'hui, petit à petit, le réseau des parcs naturels régionaux de France s'est agrandi. Aujourd'hui, même ma diapo n'est plus d'actualité parce que Il y en a 50. Le dernier qui est créé, c'est le parc naturel régional du Golfe du Morbihan, qui a mis 15 ans à se monter, donc vous voyez, ça peut être très long, et qui aujourd'hui vient d'obtenir son label. Voilà. Donc vous voyez qu'il y en a partout en France, et c'est un outil qui est en principe vraiment plutôt réservé aux espaces ruraux, souvent de montagne, voilà, qui mettent en œuvre ce projet de développement. Et c'est un réseau qui est encore riche, puisqu'on est dans une sorte de compétition entre une vingtaine de projets, dont dans le Massif central, deux projets, le nôtre et celui de l'Aubrac, puisque l'Aubrac cherche aussi à obtenir le label. Alors, notre territoire, pour ceux qui n'ont jamais vu cette carte, il faut que ça soit sur une entité géographique cohérente. Et la cohérence de notre entité, elle est donnée par toute la vallée de l'Allier, depuis ses sources en Lozère, au Mont de la Gardille, passé à Nossac, etc., à Langogne, pardon, jusqu'à Vieille-Brioude, où là, l'Allier quitte sa haute vallée et arrive en Limagne, et effectivement, on est sur un autre type de milieu. Donc voilà, Aléras est là, il y a une double colonne vertébrale, c'est l'Allier et puis la ligne des Cévennes, qui est à la fois un axe de vie et un élément de notre patrimoine, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est pas simplement l'Allier, c'est de part et d'autre, les deux plateaux qui dominent l'Allier et qui la nourrissent en quelque sorte, hein, à l'ouest la Margeride et à l'est le plateau volcanique, et donc effectivement la communauté de communes, elle est plutôt du côté plateau volcanique, avec tout le versant de l'Allier qui tombe jusqu'à Aléras, au cœur de la vallée. Ça, c'est notre territoire, 88 communes, pardon, 19 en Lozère, 69 en Haute-Loire, et quasiment 200 000 hectares. Donc un beau territoire très, très enlevé. Alors, je ne vais pas tout vous détailler, mais juste pour voir que ce projet, il est né sur sollicitation des acteurs locaux, hein, le SMAT en Haute-Loire, rejoint par deux communautés de communes en Lozère, celle de Langogne et celle de Grandrieux, une association de préfiguration qui n'écrit pas la charte à la place des acteurs, mais qui a pendant toutes ces années animé toute une série de réunions de diagnostics qu'on a fait en commun. On n'a pas pris de bureau d'études, tout ce qui a été écrit par les acteurs du territoire, par les collectivités qui ont bien voulu s'impliquer. Et aujourd'hui, on est dans la phase de rédaction finale de la charte, elle n'est pas totalement figé encore aujourd'hui, on en est à la version 7, voilà. Et dans les mois à venir, ce qu'on espère, c'est que, je dirais, à la fin de l'année, l'écriture soit stabilisée, parce qu'il faut bien à un moment donné quand même s'arrêter, et puis que dans l'année 2015, on ait les étapes de validation, et j'en profite pour bien redire, un parc naturel régional n'est jamais imposé, il est le fruit d'une volonté locale, donc chaque commune devra délibérer en 2015 pour dire est-ce que je suis d'accord avec le projet, avec la façon dont on va travailler pour rejoindre cette dynamique ensemble. Pareil, chaque communauté de communes, les départements aussi et les régions aussi, puisque ce sont aussi les grands financeurs des parcs naturels régionaux, les régions. Donc on est concerné évidemment par deux régions, l'Auvergne et Languedoc-Roussillon. Voilà. Donc ça, c'est les étapes de la procédure. Je ne vais pas vous détailler tout le fond de ce qu'on a écrit en commun. C'est un document qui fait 200 pages. Vous en avez, pour ceux qui le souhaitent, si vous ne l'avez pas eu, on a essayé de distribuer dans nos réunions territoriales. Alors, merci beaucoup. À votre disposition, cette petite brochure qui, en une trentaine de pages, vous fait une introduction à la charte, mais, et notamment pour les élus, hein, qui auront à approuver ou pas ce document, c'est important que vous vous référiez aussi, ça vous donne les clés, et puis après vous allez, c'est un petit peu rébarbatif peut-être parce que c'est pas comme un roman, hein, ça se lit pas de la page 1 à la page 200, mais vous allez piocher dans les pages qui vous intéressent, les contenus qui vous intéressent pour regarder ce qui fait sens. Voilà, l'architecture de la charte, elle est bâtie sur 4 orientations, 1, 2, 3, 4, et toute une série de mesures et dispositions. Il y a 39 dispositions fondamentales. Vous avez les thèmes là qui sont donnés. Alors, si vous avez des questions sur des sujets, bien sûr, on y répondra en tant que de besoin. Juste, les diapos que je passe là, c'est pour vous donner les grands thèmes. sous la forme des grands résultats attendus. Bien sûr, un parc naturel régional, il ne vient pas à la place de ce que font les uns et les autres. Il est là pour donner un surcroît de dynamisme, un document de référence collectif sur lequel on s'engage tous en essayant de réaliser ce qu'on a écrit. Hein. On ne réussira pas tout. Le parc lui-même, il va pas, il n'est pas dérogatoire du droit, des grandes tendances qu'on observe, etc. Il ne résoudra pas tous les problèmes, mais il doit contribuer, et c'est ce qu'on constate plutôt dans les autres territoires qui sont déjà parcs, à donner ce dynamisme et à aider à trouver des solutions. Alors sur les thèmes, 10 thèmes importants qui ressortent dans cette charte de parc. Bien sûr l'attractivité, l'emploi et les activités. On a trop souvent l'impression qu'un parc naturel régional c'est la nature, les petits oiseaux, et puis c'est tout. Non, c'est bien plus que ça. Hein, c'est à la fois un projet de vie sur un territoire au patrimoine remarquable, mais c'est dans l'idée d'un territoire plus dynamique. Donc l'objectif, c'est que ce qu'on a écrit ensemble, c'est le travail qu'on fait pendant 12 ans, ça nous permet d'attirer de nouveaux entrepreneurs, donner envie aux jeunes du territoire d'entreprendre ici et de ne pas avoir comme première idée de partir, avec un certain dynamisme, le cadre de vie reconnu, le label PNR. Bon, il y a des actions qui sont derrière, je reviendrai si vous avez plus de questions. La question de l'agriculture qui est centrale aussi dans notre territoire rural, hein, l'objectif c'est bien un maintien à la fois des emplois et des terres agricoles, et puis d'un certain nombre, grand nombre d'exploitations, avec l'idée d'autonomie à la fois énergétique et fourragère, les productions de qualité, très important, hein, c'est un mot qu'il faut retenir aussi dans la logique PNR, c'est qualité. On s'en sortira aussi parce qu'on arrivera à avoir des activités de qualité, des productions de qualité, et on a des savoir-faire de qualité, y compris par la diversification, notamment dans les actions touristiques pour produits du terroir. On ne pense pas toujours aux bâtiments, aux entreprises du bâtiment, mais c'est une de nos grandes cibles, via notamment toute l'ambition sur la performance énergétique, qui peut être chez nous un facteur de compétitivité, à la fois par les énergies renouvelables, là je ne vous fais pas de dessin ici, puisque je pense que c'est déjà des choses, mais aussi par ce qu'on appelle l'efficacité énergétique, les économies d'énergie, sont toutes une cible très importante. La filière bois, hein, 50% du territoire est forestier, voilà, avec une culture forestière qui reste encore à appuyer, et avec l'idée que notre forêt ne serve pas uniquement à sortir du bois de plaquettes ou pour la pâte à papier, ou du bois énergie pour des grandes centrales à l'extérieur du territoire, mais qu'on ait aussi du bois d'œuvre, parce que c'est ça dans le mot qualité sur la forêt, c'est de la production de bois d'œuvre, avec tout le réseau des entreprises de première transformation scierie, deuxième transformation menuiserie, qui travaillent et qui développent leurs produits. Toujours dans le domaine de l'emploi, des activités, bien sûr, PNR, on pense logiquement à la question de la dynamisation touristique, on sait qu'on est déjà un territoire de destination touristique, mais on n'a que 1,5% des emplois qui sont touristiques dans ce territoire. On sait que dans les PNR, le label fait qu'il y a un dynamisme qui se crée et donc une multiplication des emplois touristiques dans des tas de domaines. Donc c'est ce qu'on vise également avec la notion d'écotourisme qui peut nous différencier. Alors, c'est l'activité économique, c'est aussi bien sûr le cadre de vie et l'environnement, pour nous-mêmes parce qu'on y habite et parce que c'est un de nos facteurs de qualité de vie, hein, mais aussi pour ceux qui viennent nous visiter. Bien sûr, les rivières sont ressorties comme un thème très très fort, avec tout un travail sur la qualité de l'eau, sur toutes les espèces. On a des espèces, on avait bien sûr le saumon, mais d'autres espèces comme l'ombre et la truite qu'il faut absolument travailler. On était un grand territoire de destination halieutique, on peut le redevenir, sujet comme cela. La qualité, alors on y reviendra sur la notion de site remarquable, effectivement. On a dans ce territoire qui est très peu connu aux échelles régionales et nationales, hein, on n'est pas connu, et pourtant vous avez toute l'expérience, les gens quand ils viennent nous voir, ils disent « mais vous êtes dans un espace formidable, fantastique, voilà, ben, vous en avez une vue là qui n'est pas très loin d'ici ». Développer, tenir la qualité de nos paysages et de nos patrimoines, quelque chose de très fort aussi dans cette charte de parc. La biodiversité, là c'est l'exemple des narcisses, voilà, on a l'impression que les narcisses, c'est pas grand-chose. Ben, vous n'en trouvez pas partout des narcisses en France, hein, dans nos prairies. Vous savez en plus que là, les narcisses, ils participent à un très grand parfum de l'industrie du luxe nationale. Donc en plus, on voit qu'on peut en tirer quelque chose aussi quelquefois de notre biodiversité. Donc c'est cet exemple-là. Il y a des actions qu'ils ont prévues là-dessus. Et puis tous les sujets, donc ils se travaillent aussi beaucoup avec les communautés de communes, hein, qu'on peut faire monter, sur le maintien des services dans les zones isolées. Qu'est-ce qu'on entend par service? Ici, on sait qu'il y a des sujets sur l'accès à la téléphonie mobile, le haut débit, les services essentiels, le sanitaire, les médecins, etc. Donc tous ces sujets-là que les communautés de communes travaillent également beaucoup, mais qu'en étant en phase avec les régions et les départements, on peut essayer d'appuyer et de garantir. Et puis, notre autre particularité, cette fameuse ligne des Cévennes, j'y reviendrai sur Aléras, bien sûr, qui est un de nos marqueurs de territoire, un de nos éléments patrimoniaux, et peut-être demain, si on arrive à la maintenir, parce que vous savez que son avenir n'est pas assuré à 100% hein, dans les temps qui courent, c'est possible, un parc aussi avec les régions qui sont autorités organisatrices de transport, vous savez, qui font les TER, etc., qui sont dans le parc, c'est l'occasion de dire il faut qu'ensemble on sauve cette ligne des Cévennes, et le parc doit se mobiliser pour accroître aussi la fréquentation et la connexion de notre territoire à deux grands bassins qui sont finalement pas si loin que ça, le bassin Clermontois et le bassin Limois. Voilà, donc j'en ai fait, là j'ai vraiment brossé très rapidement et très vite les thèmes qui sont ressortis de notre travail collectif depuis 4 ans, qui ne sont pas le fruit de quelques-uns cloîtrés dans leur bureau, mais qui sont le fruit de tout ce travail d'animation collective qu'on a eu, hein, avec des moments simples, des moments difficiles, des explications, etc. C'est ça aussi la vie d'un parc dès sa création. Alors, petit focus sur Aléras, très rapide, hein, Aléras dans le projet de PNR, parce qu'aujourd'hui, on est bien sûr à Aléras. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour Aléras? Qu'est-ce que Aléras a revendiqué aussi? Donc, j'ai fait une petite extraction rapide. Eh bien, dis donc. Ah, si. Il sort quelque chose, Aléras. Alors, les points forts d'Aléras, hein, je fais ça. La commune d'Aléras, elle est au cœur de ce qu'on appelle effectivement un site emblématique du parc. C'est-à-dire que ce territoire qui est peu connu, dans les travaux d'écriture, on a vu qu'il avait des hauts lieux, que dans ces hauts lieux, qui lui valait, je dirais, et les rapporteurs des instances de la Fédération des Parcs, ils sont venus, ils ont été surpris, hein, ils ont découvert ce qu'était la formidable qualité de ce territoire. On les a amenés à Aléras, bien sûr, et ailleurs, hein, pas qu'à Aléras quand même, et ils ont reconnu la pertinence de ces sites emblématiques. Alors c'est lesquels? Bien sûr, on pense au lac du Boucher, là je parle de l'ensemble de la communauté de communes, le lac du Boucher, le Mont-de-Vez, qui est déjà un haut lieu reconnu, mais il y a toute la vallée de l'Allier, avec trois séquences. Ici on est dans les gorges sauvages de l'Allier, après, c'est-à-dire de Saint-Étienne-du-Vigan à Monistrol, après de Monistrol à Langeac, on a ce qu'on a appelé la vallée tonique, hein, qui est un peu plus ouverte, un peu plus pratiquer, etc. Et puis, enfin, la vallée riante, hein, de la rivière, pour ceux qui se connaissent, jusqu'à Vébrine. Donc l'ensemble de la vallée de l'Allier est un site emblématique avec plusieurs séquences, et à Aléras, vous êtes dans l'une des, peut-être la plus remarquable des trois, je ne dis pas ça par démagogie, hein, les gorges sauvages, voilà. Et la charte prévoit bien un travail collectif à la fois de mise en valeur et de préservation de ces sites. Qu'est-ce qu'on fait pour accroître la renommée de ces sites, la reconnaissance aux échelles nationales? Quand on parle du Puy-Marie ou des gorges du Tarn, etc., est-ce qu'un jour on parlera des gorges de l'Allier? Oui, c'est possible. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Alors, ce n'est pas pour faire un tourisme de masse qui vient massacrer le territoire, hein, il faut aussi être clair là-dessus, mais c'est pour accroître notre notoriété, notre attractivité. Voilà. Et on appelle ça un grand site parce que demain, là, on imagine, on peut avoir des démarches de type grand site de France, comme il y en a sur la chaîne des puits. C'est pas impossible et irréalisable. Voilà. Et la commune, elle est vraiment. Alors, j'en profite pour faire un petit lien avec le plan de parc, parce qu'on a des zones qui sont définies sur ce document qui est là, que je peux vous projeter si vous voulez, je projeterai peut-être à la fin, où on voit Aléras effectivement au cœur de ce site emblématique, là, qui est cerné en jaune. Et c'est très intéressant de faire le lien entre la charte du parc et le plan de parc, tous les deux sont sur notre site internet, hein, et vous l'aurez, je dirais, en tout compris au moment des délibérations, etc., dans sa version papier définitive, hein, mais d'ores et déjà, vous pouvez consulter, c'est très important de faire ce lien. Alors, à l'ERAS toujours, je reviens un peu sur la gare d'Aléras, parce que Aléras, c'est une gare, c'est un point d'arrêt, c'est une gare sur la ligne des Cévennes, sur le TER. On en a parlé d'ailleurs, il y a eu quelqu'un, je ne sais pas si la personne est là, mais à Saint-Aron, on a eu une intervention là-dessus. Hein. Elle est identifiée dans notre charte de parc parmi les gares à conforter pour le maintien de la ligne des Cévennes et le développement du train touristique, avec l'idée que peut-être par la route, on est un peu enclavé. C'est sûr, c'est pas facile, là, etc. Mais par le train, on a ce lien-là, qui est long aussi, il ne faut pas non plus se leurrer, on n'est pas à une demi-heure de Cabon, mais on n'est pas si loin de ça. Le train touristique, on a déjà du potentiel qui a été démontré par toute la stratégie mise en œuvre par le SMAT. Hein, quand vous avez sur des circulations de train 400, 500 voyageurs touristiques qui montent, qui vont là, qui s'arrêtent là, qui vont à Languedoc. Est-ce qu'on peut aller plus loin là-dessus et avoir peut-être un jour 50 000 visiteurs par an qui fréquentent votre train, qui en profitent, qui prennent leur vélo, qui vont visiter le site web, plein de choses à faire là-dessus. Donc c'est une des ambitions qui est ressortie dans la charte du parc. Et Aléras, bien sûr, serait un des lieux d'arrêt de promotion et de diffusion dans le territoire. À l'ERAS, il y a la gare, mais il y a aussi des acteurs touristiques. Alors, pardon si je ne les ai pas tous cités, parce qu'il y a des gîtes, il y a des caravanes, je vais citer les principaux. Bien sûr, le restaurant, qui est un des fleurons qualité sur ce territoire. Le site de Cap Vacances, bien sûr. Le camping, on voit qu'on est sur ce que les acteurs appellent aussi un spot touristique. Et l'idée aussi, c'est tout un travail de qualification, de qualité, de marquage par le parc d'un certain nombre d'acteurs touristiques qui le souhaitent, toujours sur l'idée de la volonté, hein, ça ne sera jamais imposé, mais qui fera, et avec la promotion parc, vous savez, les gîtes qui sont dans les parcs, si vous regardez leur promotion ou leur site, ils commencent toujours par dire au cœur du parc naturel régional des Gorges du Verdon, au cœur du parc naturel des... et ils ne le font pas pour rien, parce qu'on a... J'irais sur un certain public touristique qui aime les images de nature préservée, de qualité des produits, etc. On a une réelle attractivité. Voilà. Donc il faut que les acteurs économiques en profitent, pardon, et qu'ils soient aussi acteurs de projet. Par exemple, je le dis là à l'ERAS, pour Michel, on a le travail sur l'ombre, qui est un poisson emblématique, en disant peut-être demain, est-ce que des restaurateurs dans le territoire n'arriveront pas à créer avec la salmoniculture de Chanteuge et avec le parc, un produit de haute qualité gastronomique qui s'appelle l'ombre et qui pourrait être marqué parc et nous faire reconnaître et faire une publicité tout en étant sur un vrai produit véritable et de qualité. Et il y a plein d'idées sur des produits à consommer au-delà de ce sujet symbolique de l'ombre. Autre marqueur de notre territoire qui est inscrit dans la charte et qui concerne Aléras, ce sentier des Gorges de l'Allier, qui s'appelle Vallée des Gorges de l'Allier, hein, qui part de Brioude et qui va jusqu'aux sources, qui est un sentier qui serait traversé par tous les randonneurs et l'ensemble de la vallée, il passe à Aléras. C'est le fruit d'un travail de l'Office de tourisme intercommunautaire des Gorges de l'Allier, en lien avec les comités départementaux de la randonnée. Là encore, on a là un marqueur, il n'y a pas que Saint-Jacques et le Stevenson, hein, même s'ils sont importants, il y a aussi ce chemin-là, et là, Aléras est concerné, et il peut être aussi un puissant vecteur de fréquentation et d'irrigation du territoire. La question de la relance de la filière ovine, là c'est plus général, bien sûr tout ça ne concerne pas que Aléras, hein, mais vous êtes concerné aussi par ce sujet-là, il y a un des grands sujets de notre charte du parc sur l'Ovin. On est dans le verso historique, sur tout le Haut-Allier, de quatre races ovines rustiques, hein, nationales. On a fait la thèse, on a le projet de Paudelet-Massau, on a la filature des calcaires à Langogne, et on a cette ambition d'essayer de soutenir la filière ovine qui est en difficulté, et de faire en sorte que demain, nos espaces qui autrefois étaient très entretenus par le pâturage ovin, et bovin également, mais il le soit toujours, et que nos paysages, si on a des paysages magnifiques, c'est aussi grâce aux éleveurs qu'on le doit, et ça c'est très important, et de faire en sorte que, là c'est des actions qu'on a travaillées avec les chambres d'agriculture, hein, de faire en sorte que l'élevage ovin il soit aussi demain un de nos marqueurs de territoire, et que la production ovine, elle ne soit pas en fragilité, elle soit plutôt en relance, avec même toute une dimension culturelle liée au travail de la laine, à d'autres usages qu'on peut avoir en lien avec la filière ovine, la fête des bergers à Venteuge. Vous êtes au cœur du Bord de l'Allier, c'est un territoire de tradition ovine, donc je vais rajouter. Cette question des villages remarquables, hein, que vous avez eu, je dirais, des remarques dès Saint-Alaron, dès notre réunion d'avril, en disant mais comment cette question-là elle est ressortie, c'est vrai que dans la charte du parc, on est parti de l'idée qu'il y avait quatre villages déjà dans le parc qui étaient sur la logique plus beau village de France, que vous connaissez peut-être, de se faire reconnaître plus beau village de France. Alors, c'est vrai qu'il y en a un sur quatre parfaits, mais qui est dans la vallée de la Loire, c'est Arlande, hein, qui l'est déjà. On en a un autre qui l'est déjà sur le territoire parc, c'est La Roudieu. Et on a des collectivités qui le souhaitent à La Roche-Chillac, à Champeuge. Et le projet de parc, pardon. Et bon, pardon, pour Pradel, Voilà. Et la charte de parc, l'idée qui est ressortie de notre travail en commun, c'est qu'il ne fallait pas que ces magnifiques arbres cachaient la forêt de nos villages, et que peut-être le parc pouvait faire remonter un petit peu au-delà de ces villages, les plus beaux villages de France, un certain nombre de sites, de petits villages, qui sont remarquables. Alors pourquoi ils sont considérés comme remarquables? C'est parce qu'à la fois ils ont du monument historique, hein, reconnu, protégé, déjà c'est la base, mais que c'est pas seulement un monument historique, c'est autour de ce monument ce qu'on appelle un patrimoine vernaculaire, un patrimoine quotidien bâti, des maisons, des lavoirs, des maisons d'assemblée ou des maisons d'habitation, etc., qui forment un ensemble, et que le monument historique n'est pas posé tout seul, hein, il est dans un ensemble patrimonial, ça c'est le deuxième critère, et que le troisième critère, c'est même en plus de ça, c'est un village qui a une, si on élargit encore, qui a une inscription de qualité dans son site. Donc c'est une notion plus de rapport au paysage environnant, où effectivement un village pour être remarquable, il faut aussi qu'il soit dans un site de qualité, dans un paysage de grande qualité. Voilà. Alors, on a abouti, sur la base de ces critères-là, à une proposition de liste à 28 villages remarquables. On a une commune qui nous a dit, mais moi, je souhaite, et j'ai un village qui est dans ces critères-là, hein, c'est en Lozère, c'est Chastanier, qu'on a rajouté à la discussion avec la commune là-dessus. La liste, c'est vrai qu'à un moment, il faudra qu'elle soit arrêtée. L'association, il ne lui appartient pas de juger comme un juge de paix ou un tribunal, ah là, non, etc. Ça procède aussi, et c'est pour ça qu'on en parle ce soir, de la volonté de la commune, parce que être village remarquable, c'est effectivement avoir ces patrimoines-là, puis c'est aussi se dire, moi j'ai envie de les valoriser, de préserver ce caractère-là, d'avoir un travail sur la signalétique, sur les espaces publics, sur peut-être des petits points noirs paysagers, ou des bâtiments orphelins, ou des zones qui sont encore à travailler dans ces villages-là pour leur redonner de la qualité. Peut-être d'essayer d'installer, s'il y a des opportunités, un artisan d'art, un espace de découverte, etc., de m'investir sur ce village-là. Parce que être plus beau village, enfin village remarquable, c'est sympathique, on se fait plaisir, mais ça veut dire que derrière, on a envie d'essayer de travailler cette qualité-là, pour que derrière, quand le parc qui fera la promotion du territoire, il puisse dire, bah, vous avez notamment le réseau des villages, vous avez les sites emblématiques, vous avez le réseau de villages qui participe de la même logique et qui essaye de vous montrer, qui vous montrera le patrimoine. Voilà. Donc, ces sujets-là, je dirais, ils sont inscrits dans la charte du parc. Pour être très clair avec vous, c'est vrai que village remarquable, on n'avait pas recensé à l'ERAS. Alors, vous nous direz si c'est peut-être une erreur. Hein. On a eu, il n'y a pas longtemps, une visite pour se rendre compte, effectivement. La porte, elle n'est pas fermée. Et il faut savoir derrière, est-ce que la commune... Bonjour. Est-ce que la commune elle a envie? Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant? Après, il faut rentrer dans le détail des dispositions pour voir qu'est-ce que ça implique. Hein, que c'est, enfin, voilà. Je ne vais peut-être pas aller plus loin dans l'exposé, La place est au débat. Il y a des histoires de gouvernance, etc., que vous pourrez trouver. Après, ce sera plus sous la forme de questions-réponses. Merci.
Merci.
Pas mieux. Pas mieux. Une petite précision qui peut expliquer les erreurs d'appréciation et de conclusion qui ont pu être tirées concernant cette notion de village remarquable, c'est que pour beaucoup d'entre nous, et je ne suis pas le dernier d'ailleurs au début à l'avoir fait, alors qu'on m'explique, par village, il ne faut pas entendre commune. Il faut bien entendre, Luc l'expliquerait mieux que moi, c'est un ensemble de bâtis, c'est pour ça qu'ici il est question du bourg, parce qu'il a le profil pour dire qu'il correspond aux critères de village remarquable du bourg, et que ce n'est pas une commune tout entière qui peut être ou ne pas être village remarquable, mais peut-être une partie commune, en l'occurrence ici un regroupement de bâtis remarquables, une église qui a une histoire, qui a une particularité historique, qui est assez ancienne, et qu'il ne faut pas donc mélanger commune et village. Je dis ça parce que dans nos esprits et dans notre langage courant, il n'est pas rare d'employer le mot village pour les hameaux, et qu'en pensant village, on puisse penser aussi l'ensemble de la commune, alors que ce n'est pas le cas. Nous avons plusieurs villages qui pourraient être remarquables, si j'ose dire. Et le choix qui sera fait par la commune, par la municipalité, ne sera pas fait par un tirage au sort, mais sera fait sur la base de critères objectifs sur lesquels on se fera peut-être aider aussi par l'association, parce que pas la peine de réinventer la poudre quand elle existe déjà. Voilà, je vais donner cette précision sur cette notion de village et de commune. Merci.
Si vous permettez, pour compléter cette vision de la démarche, quand on en a parlé à l'association et on s'est dit, mais on va avoir des villages, les plus beaux villages de France, etc., qui sont dans cette démarche-là. C'est bien, ça fait des pôles intéressants, etc. Mais il y avait, on s'est dit qu'il y avait autre chose, quoi. Il y avait d'autres villages, donc, qui méritaient autre chose, et qui méritaient surtout de rentrer dans une dynamique de travail autour de leur bâti, autour de leur reconnaissance, autour de leur chose. Et ça, le parc peut se permettre. Il peut se permettre, à la limite, de créer son propre label, si vous voulez, en disant, nous avons des villages remarquables. Ces villages remarquables, on discute des critères qui font partie de ce que nous, le territoire, entend par remarquable. Et à ce moment-là, on engage une discussion, une concertation là-dessus, et on dit, ben voilà, la liste, elle est comme ça pour le moment. Elle évoluera, elle changera. Il y a d'autres villages qui seront candidats, il y a d'autres villages qui voudront que lui est, parce que voilà, ça les ennuie, ça va encore, je sais pas. Il y en a d'autres qui diront, ben oui, on peut faire, mieux rentrer dans cette démarche-là. Il ne faut pas le voir comme une liste exhaustive, où du témoin aurait écrit des villages en passant qui nous plaisaient bien. Pas du tout. Il ne faut surtout pas oublier la démarche dont a parlé lui, qui est une démarche dynamique. C'est-à-dire qu'on part de quelque chose, peu importe, mais la commune a la grande volonté de faire autrement. Ou le village a la volonté de faire autrement de son village et d'acquérir un label, quelque chose, qui le singularise dans le parc et qui lui rapporte quelque chose. Au moins en termes d'image, en termes d'activité, etc. Ça, c'est le problème du territoire. Et je vais compléter l'image, mon propos, en disant que rien n'est figé. On a eu l'exemple en tout début de charte où on avait la commune de Poyagné, la communauté de commune de Poyagné, qui veut rentrer à ce genre de parc. Et on était un peu embêtés parce que c'est plus les gorges. Si vous regardez la carte, c'est plus les mêmes choses. On n'est plus dans les mêmes configurations, quoi. Et donc, il fallait prouver au ministère de l'Environnement, auquel on amenait la charte et la carte et le nombre de communes, que c'était valable, que c'était cohérent. Et on a demandé à la communauté de communes de Poyagné de nous aider à ça, de nous donner des billes pour que nous argumentent après, ailleurs, en disant non, mais ça fait vraiment partie de l'entité, quoi, ça fait partie du truc. Il faut que ça marche, et ça ne marchera pas si on n'a pas ce petit doigt, même si ce n'est pas des gorges comme on en a ici, voilà. Pas pareil, mais on a besoin de ce doigt. Et ils ont travaillé, la communauté de communes a travaillé, à nous donner des arguments pour dire, mais non, on fait complètement partie de la charte. Nous, on l'a imposé au ministère, on a dit, quand vous viendrez, vous vérifierez ce qu'on vous dit. Et c'est ce qui s'est passé lors de la visite des rapporteurs à la ville intermédiaire. On les a fait visiter tout spécialement ces points-là. On a argumenté avec les gens de la communauté de communes, avec les élus, en disant, ben, vous voyez, c'est cohérent. Et ils ont admis que c'était cohérent. Donc voilà, mais il faut qu'on soit toujours dans ces démarches-là, quand on veut adhérer à quelque chose dans le parc. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'une part, la liste des développements locaux n'est pas fermée, elle est évolutive, je dirais, elle dépend de vos volontés. Et nous, on est là que pour et vos capacités, etc. Et on est là pour vous aider, et à la fin, on écrira ce que le territoire veut.
La parole est à la salle. Question.
Marc de Chevreuse, le député RAS Capital, donc, et de donc vous nous dites
effectivement que la liste est évolutive des villages remarquables, et vous nous dites aussi qu'il faudra bien un jour arrêter la rédaction de la charte, et notamment à la fin de cette année. Et quand même, donc, est-ce que les deux mois qui restent avant la fin de l'année pour Aléras seront suffisants pour déterminer quel bourg ou quel village dans la commune pourrait faire partie du village remarquable. Village remarquable qui, vous ne l'avez pas dit, nous l'avons dit à Saint-Aon, bénéficieront de tout un staff, on va dire, d'architectes et de gens qui vont travailler sur leur patrimoine, et également des aides, enfin, je dis un staff, mais ce qui a été dit à Saint-Aron.
Hein. On a staff, on parle non plus.
Hein. Non, mais staff, je parle de cabinet d'études, je parle de d'aide au financement.
L'idée du parc, c'est de faire de l'aide à projet. Donc, si une commune a le projet rentré dans cette démarche-là, ça sera aidé par le parc. Dans la mesure des moyens.
On est bien d'accord, on est bien compris, mais dans quel délai? Est-ce qu'il va falloir attendre 12 ans? Ou bien est-ce que vous allez, quand vous présenterez le parc dans 3 ans, dire « Ah, mais il y a les races en plus qui peut-être vont faire partie, mais dans 12 ans ».
Voilà, c'est tout, c'est pour ça que nous avons deux choses. Il y a effectivement une liste qui peut être fournie au dossier de charte. En 10 ans, on a tant de communes, tant de villages qui sont déjà candidats à. Et ensuite, un peu comme les produits agricoles, où on cherche à faire de la marque parc, par exemple. Les produits des dépôts agricoles qui vont chercher, pendant la durée de l'achat, à être labellisés marque parc. On ne peut pas en faire la liste aujourd'hui. Mais la démarche va exister et la démarche va permettre de rentrer dans cette démarche. Donc la charte, au lieu de faire une liste exhaustive et de dire, elle ne dira pas, si vous voulez, c'est la liste exhaustive pour 12 ans.
Elle dira, c'est la liste. On parle de deux choses différentes. Vous parlez de labellisation par marque d'acteur touristique.
Je vous parle de la démarche.
Oui.
Je parle de la démarche de progression en qualité, si vous voulez, d'une manière générale. Qu'un village veuille devenir un village remarquable, moi je ne vois pas que la charte d'un parc dise qu'il n'était pas dans la première liste, il n'a pas le droit pendant 12 ans à ne pas travailler et à ne pas l'être. Voilà. Après, c'est le parallèle que je faisais avec les produits agroalimentaires. Par exemple, aujourd'hui, il n'y a rien à mettre en vente. Mais on sait que peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, il faudra mettre, et ça sera important. Donc la charte n'est pas comme une idée fermée, avec une liste exhaustive des choses. Ce que je voulais dire. C'est un parallèle avec
les deux choses. C'est un problème de timing, on va dire.
Non, c'est pas du timing. C'est l'esprit de la charte qui dit on met en place une démarche de projet. Il y a déjà des volontaires, des gens qui sont là, mais la liste n'est pas fermée. Tout le monde peut y travailler.
Mais effectivement, si dans cette phase d'écriture, parce qu'à un moment, effectivement, comme le disait, la charte qu'on va arrêter d'écrire, ça reste quelque chose qui est souple. Hein. C'est pour ceux qui ont lu les dispositions, vous avez vu qu'il y en avait un certain nombre qui était quand même assez général, qui laissait de la souplesse. Pardon. Si la commune
si la commune souhaite figurer pour, pas pour le territoire communal, effectivement, comme vous disiez, mais pour un bourg, en disant, nous, on est motivés, on a envie d'être dans les villages remarquables, de se mobiliser pour ça, il faut qu'elle puisse, l'idéal, effectivement, c'est qu'elle rejoigne cette liste-là, qui est la liste de départ, parce que derrière, ça veut dire, effectivement, que le parc devra se mobiliser sur ces villages-là, tout en restant ouvert pendant les 12 ans, et ce que dit Lionel encore là-dessus, que dans les 12 ans, le parc, s'il y a un super village qui vient le voir, une commune qui est membre du parc et qui dit « Mais écoutez-moi, essayez de m'aider à travailler un projet de requalification du bourg, etc. etc. » Le parc jamais ne tournera le dos à une commune en lui disant que vous n'êtes pas dans la liste, etc. Mais c'est vrai que si vous êtes motivé, ben autant le marquer, et vous aurez la certitude que il y aura cette attention du parc à votre égard, mais aussi cet engagement que vous prenez à essayer de travailler sans que le résultat exact de qu'est-ce qui sera fait précisément. On n'a pas étudié précisément dans les 29 villages qu'est-ce qu'il faut faire. Il y en a qui se mobiliseront beaucoup, qui donneront lieu à des réalisations un peu lourdes. Il y en a d'autres, c'est plus simple, c'est pas grand-chose. C'est, voilà. Après, ça reste assez.
Voilà. Donc, voilà. Simplement pour conclure, est-ce que quelqu'un du conseil municipal ou M. le maire peut nous dire s'il veut, si Aleras et donc éventuellement le bourg d'Argention, est-ce que la municipalité veut démarrer avec les 29 ou bien attendre tranquillement à son rythme? Voilà, c'est tout.
J'avais bien compris qu'il y avait plusieurs petites questions en une, et vous parliez bien de la même chose tout à l'heure, de toute façon, sauf que la question à Mars s'adressait aussi à la municipalité, largement représentée, et pour laquelle je vais me permettre, excuse-moi Alain, tu es premier adjoint, et bien en vue paraît-il, surtout sur certains sites, il arrive au maire de travailler aussi, même si ça ne se voit pas. Ce que je veux dire par là, c'est que la commune d'Aleras n'a aucune raison d'attendre 12 ans. Que tu as une partie de la réponse à la question que tu poses, c'est que ce qui était marqué là, c'est-à-dire l'exemple qui était donné, c'est le bourg d'Aleras, donc on n'a pas travaillé sur du vide, et que je vais poser une question à laquelle je vais répondre moi-même, comme ça gagnera du temps, c'est que j'avais bien compris à Saint-Aron qu'il ne s'agissait pas d'être remarquable pour être aidé, mais que tout membre du parc, remarquable du parc, pouvait être aidé, contrairement à ce que j'ai pu lire, non, ce que tu as pu écrire, hein, si tu peux tourner ta tournée autour du pot, on revient à la même chose. Donc, Aleras est candidat à avoir un village remarquable, au sens où je l'ai précisé tout à l'heure, c'est-à-dire ne pas être labellisé, comme tout le monde l'a cru, toi le premier, en entraînant des signataires dans la même erreur, s'agissant de la commune. Or, il ne s'agit pas de la commune.
Je retranscris exactement ce qui a été dit à Saint-Aron depuis l'enregistrement.
Je t'ai pas entendu parler à Saint-Aron, je t'entends parler ici, je suis content, ça me permet de te répondre. Oui. Et en direct et pas virtuellement. Donc, je veux dire par là que Aleras est forcément candidat à être quelque chose, si j'ose dire, de particulier dans le parc. Nous le sommes déjà, parce qu'il a été décrit tout à l'heure par Luc, que nous soyons partiellement remarquables ou pas, tout le monde est remarquable, toi le premier, on le sait très bien, mais on sera aidé par l'association du parc, ça vient d'être confirmé, et je suis content que ce soit le président qui le confirme, et que la question que j'avais posée à Saint-Aron, dont tu étais un petit peu gossé, c'était que ce n'était pas essentiel d'être remarquable ou pas, ça ne nous empêcherait pas d'être aidé par le parc. Voilà. J'ai cru que je m'étais trompé quand je t'ai lu, je m'aperçois ce soir que j'avais posé la bonne question, c'est pour ça que je me suis permis d'y répondre.
Bon, pour terminer, enfin bon, enfin, pour moi, hein, tout est. Il n'y a pas d'erreur, j'ai parfaitement compris ce que vous avez tous dit. C'est simplement une histoire de timing et une histoire de volonté de la part de la commune.
Je veux dire par timing,
c'est tout.
Je ne sais pas ce que tu veux dire par timing. Nous, on travaille au rythme. Nous avons assisté à toutes les réunions du VAR auxquelles nous avons été conviés. Je demande à ces messieurs de le confirmer ou de l'infirmer, y compris celles qui étaient propres à la communauté de communes, etc. Nous avons assisté à toutes. Par contre, des décisions de ce type ne se prennent pas comme ça à l'arrache, si je veux dire. Voilà. Donc, nous avons écouté, nous avons apparemment partiellement entendu. Il me semble que nous avons à peu près compris. Donc ce soir, on restitue. Ce qu'on restitue, c'est qu'évidemment, et au-delà de tout égo, si je veux faire mal placé et excessif, nous sommes remarquables. Nous avons des endroits remarquables dans Aléras, dans le bourg. C'est écrit là, donc c'est écrit là, c'est pas pour rien, c'est bien que ça n'a pas été évoqué. Je pense que Luc Blondel n'a pas inventé de tirer au sort.
Donc, vous avez, la municipalité a décidé donc de choisir le bourg d'ailleurs.
Non.
Et on n'est pas au conseil municipal.
D'abord, ton lapsus c'est révélateur, parce que tu parles du pont d'Aléras alors que moi je te parle du bourg.
Non, d'Aléras je parle.
Voilà. La municipalité a décidé de se poser la question de savoir quelle est la partie de la commune qu'elle allait demander à voir labellisée comme village remarquable.
Très bien, voilà. C'est tout ce que je demande.
Et ceci sans attendre 12 ans, parce que 12 ans c'est deux mandats, et je n'ai pas dit que je ferais deux mandats. Voilà. Non, mais nous sommes en train de travailler, et si, pour reprendre une de tes phrases, parce que vous ne souhaitez pas polémiquer, si je lui m'y invite, je vous prends volontiers, pour reprendre une de tes phrases, si la discrétion... Excuse-moi Marc, si la discrétion crée doute, comme tu l'as écrit sur ton site, je dirais que la cisanie et la désinformation, parce que je ne vois aucun signataire ou presque ce soir ici, je ne t'ai pas entendu parler à Saint-Aron, pour moi ça crée le trouble. Et le trouble est beaucoup plus dommageable que le doute, parce que le doute il peut toujours être levé. La preuve ce soir, on est en train d'expliquer comment Aléras, et Aléras représenté par ses élus, dont j'ai l'honneur de faire partie, et qui a bien l'intention de prendre toute sa place et de la garder au sein du parc, que ce soit maintenant, que ce soit, je l'espère, au bout de 12 ans, quand le premier bilan sera fait, et de savoir si à ce moment-là, les gens d'Aléras veulent ou ne veulent pas rester à l'intérieur du parc, ou si les gens du parc le veulent encore. Voilà.
Bon. Alors, donc,
est-ce que ça répond à tes craintes?
Tout à fait.
Donc tu vas pouvoir rassurer que les signataires qui sont...
Nous apprenons donc que vous avez choisi le bourg.
Et nous n'avons pas choisi le bourg. Le bourg a été marqué ici comme un exemple. Ah. C'est fou, je ne sais pas si c'est de la malentendance ou de la mauvaise foi. Alors entre les deux, je te laisse le choix. On ne choisit rien au moment où on est en train de parler.
Ce soir, on affirme. Ce n'est pas une critique. Vous avez donc choisi quelque chose pour la commune.
Nous avons choisi de proposer après que nous ayons continué et fini d'en discuter et dans des délais raisonnables que nous a rappelé Luc tout à l'heure, nous avons décidé de proposer une partie d'Aléras, qu'il ne peut s'agir que d'une partie, comme étant village remarquable. Et je te demande si tu auras l'honnêteté de rectifier ce qui a été mis comme erreur ou contre-vérité pour l'instant sur ton site. C'est tout.
Mais pas du tout, parce que l'information n'était pas passée. Tu nous l'apprends ce soir.
Alors,
tu nous l'apprends ce soir. Donc, on est très contents, on est ravis.
Pourquoi tu inventes en attendant? Pourquoi tu as inventé en attendant?
C'est une autre
imagination, alors. Puisque la décision n'était pas prise, pas encore prise.
Ah, la décision n'était pas prise.
Bien sûr que non.
De toute façon, la soirée n'est pas une soirée polémique.
Non, mais
il y avait quelques mises au point qui méritaient d'être faites. Elles sont faites. Je suis content de pouvoir te voir plutôt que de le faire virtuellement. Il y aura certainement d'autres questions, ce qui ne veut pas dire que tu peux plus en poser, bien évidemment. Mais je crois que Luc voulait donner une précision.
C'était une illustration effectivement sur à la fois site emblématique et village remarquable. Ceux qui veulent vraiment fouiller la question, vous allez dans notre charte sur notre site internet, vous faites PNR Hôtelier, et puis vous allez voir la disposition 311, ça fait un peu... Bon, mais il n'y en a pas 300, il n'y en a que 39, mais c'est
33, excellent, ce 3 qui est très intéressant.
Et vous voyez, ce que je vous disais là, l'élaboration d'un projet de village, la qualité du bâti de l'aménagement, voilà le je dirais... derrière cette notion de village remarquable, y compris par la gestion de la publicité, hein, parce qu'on a des sites où il y a eu un peu de publicité intempestive, donc il faudra régler ça aussi,
Donc c'est, ce qui est intéressant, c'est bon, là je ne vais pas vous faire la lecture, mais c'est de voir derrière que la notion de village remarquable, mais comme d'autres choses, ça, dans la charte du parc, toutes les dispositions, elles sont bâties comme ça. Et à un moment, vous avez le rôle du syndicaliste du parc. C'est-à-dire, que fera le syndicaliste du parc pour aider, pour contribuer à ce qu'on arrive à réaliser ces actions? Et quels sont les engagements des communes et intercommunalités? Et notamment pour les villages remarquables, élabore avec l'aide de l'atelier du parc, c'est-à-dire l'équipe technique qui sera mobilisée parce que les communes ne sont pas seules. Le staff a élaboré leur projet de village, l'intègre dans leur document d'urbanisme quand il y en a, et le met en œuvre dans la limite de leurs possibilités financières, bien sûr, parce qu'après, derrière, tout le monde n'est pas prêt à ça. Le parc pouvant aider à rechercher des moyens financiers sur des opérations un peu innovantes, etc. Vous voyez, c'est et pareil sur les sites emblématiques que j'ai cités tout à l'heure, hein, des documents d'orientation, une stratégie de valorisation. Voilà, donc tout est écrit dans la charte. Et c'est, alors c'est la vertu de ce type de document, c'est lourd. C'est vrai qu'on ne s'amuse pas à le lire de fond en comble, mais vous avez, c'est pas sur des. On dit, c'est sur ce qui est écrit dans la charte que vous aurez à vous prononcer. Sur ces questions de village, mais sur tous les sujets. Voilà. Donc ça veut dire que pour la décision d'une commune. C'est important, ça veut dire qu'elle pèse, c'est son intérêt, sa motivation à reconnaître ce projet ou à proposer un village remarquable, etc. Voilà.
Les 29 villages qui ont été déposés, ils ont été d'emblée comme ça, par exemple, c'est parti.
Oui, ils ont été assez vite par. On avait un thème dans l'écriture de charte, on avait un atelier d'écriture, je vous ai trop fait. Mais on a travaillé par thématique. Il y avait la thématique agriculture, la thématique, etc. Puis il y avait la thématique patrimoine culturel, qui était notamment dans le cas de le pays d'art et d'histoire, c'est beaucoup mobilisé pour animer cet atelier. Puis dans cet atelier, il y avait des études, il y avait des partenaires, etc. Et cette idée a été proposée, elle a été débattue, elle a été jugée intéressante. Et donc, le pays d'art et d'histoire en lien avec l'association, on a essayé sur les critères monuments historiques et puis qualité du